Bonsoir et encore merci d'être fidèle à nos rendez-vous qui deviennent maintenant habituels, donc comme des vrais rendez-vous, ce qui fait que c'est vraiment très très bien. Donc ce soir, nous allons parler de la charge mentale, le fardeau invisible des mères. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui représentent aussi la charge mentale. Je voudrais commencer par une petite anecdote avant de donner la parole à Marie. Moi, j'ai entendu l'autre jour le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, qui fait un certain nombre de réformes que j'ai oubliées complètement. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il disait « Ceci va alléger la charge mentale des entrepreneurs ». Alors, je me suis dit « Dans quel sens entend-ils la charge mentale ?» Puis la deuxième remarque qui m'est venue comme ça en pensant à ce sujet... Ça peut paraître extrêmement loin. Je vais vous parler de Karl Marx. Mais Marx, lorsqu'il a examiné le travail, il a mis en évidence un phénomène que personne n'avait vu alors que c'était sous les yeux de tous. C'est quoi le travail? Moi, on me donne un bout de bois. On me dit, je te paye un euro de l'heure. Bon. Et tu travailles, tu fais une table. Donc, je travaille 8 heures, on me donne 8 euros, ça roule. Je travaille 12 heures, on me donne 12 euros, ça roule. Sauf que pendant que je travaille mon bout de bois, moi, j'ai fait une table. Et la table, ça correspond pas tout à fait au bout de bois. Il y a eu, en plus, j'ai ajouté par mon travail une valeur d'usage, mais une valeur qui tient à mon esprit, à mes muscles, etc., et qu'il va falloir donner à cette table qui a aussi une valeur d'échange. Alors, le patron, il m'a payé mes 8 heures, il m'a payé mes 12 heures. Donc c'est cool. Il peut être gentil avec moi, il peut être méchant avec moi, je m'en fiche absolument, il m'a donné 8 heures. Alors ce que Marx dit, voilà, ben, il y a là le secret de l'exploitation de l'ouvrier, et ça s'appelle la plus-value. Au moins, il m'est apparu que la charge mentale, c'était aussi le secret de l'exploitation des femmes, ou plutôt le non-visible, devant les yeux de tous, parce qu'on a le voir, on va parler sûrement avec Marie des scènes habituelles de la vie quotidienne où c'est tellement évident, c'est sous les yeux de tous, mais on ne le voit pas. Et c'est pour ça que ce terme qui est venu dans le lexique social, le lexique d'aujourd'hui peu à peu, et qui désigne aujourd'hui très précisément, non pas la tâche qu'ont les entrepreneurs de terminer à 21h, mais quelque chose de très particulier, de beaucoup plus secret, de beaucoup plus diffus, effectivement, qui serait la clé, une des clés invisibles par rapport à toutes les autres formes de domination que subit la femme, qui me semble être un peu centrale. Donc, pour parler de ce sujet, on a invité donc Marie Garraud, qui est là, toute prête à parler, qui est maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où elle est responsable d'un master d'éthique appliquée, responsabilité sociale et environnementale, puis elle est aussi chercheuse à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et ses recherches portent sur les théories contemporaines de la justice et de la reconnaissance, les éthiques du care, la théorie critique et la théorie féministe. Donc elle a publié, vous voyez les titres de ses livres sont assez clairs, care et attention, politique de la vulnérabilité, la liberté négative, usage et critique avec Delphine Prévost, politiser le care, et aussi phénoménologie critique, expérience vécue du genre et de la race. En 2019, elle avait publié Politique de la vulnérabilité, ouvrage qui nous avait tellement plu à nous, jury des rencontres philosophiques de Monaco, que nous lui avions donné à ce moment-là le prix de philosophie pendant l'année 2019. Voilà, Marie, à toi.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je pense que vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Robert, pour cette introduction. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'écho à tes réflexions dans ce que je vais dire et je pense qu'il y en aura encore d'autres dans la discussion. Je voudrais commencer évidemment par remercier toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco pour cette invitation. Je suis ravie en fait d'intervenir dans le cadre de ces ateliers qui voilà témoignent une fois de plus sous une forme nouvelle de l'inventivité de l'équipe pour promouvoir et diffuser la philosophie partout. partout où on est, partout où on pense, partout où on vit. Donc je suis vraiment ravie de faire partie de cette initiative et honorée. Donc merci Charlotte et merci Laura notamment pour ce beau programme. Alors, je vais vous proposer, pour commencer, de réfléchir, vous, pendant quelques minutes, rentrer en vous-même ou éventuellement d'en discuter avec votre voisin ou voisine et de vous demander, de vous poser les questions suivantes, chez vous ou dans votre entourage, qui prend les rendez-vous chez le médecin pour les membres de la famille, inscrit les enfants à la cantine et aux activités périscolaires, gère les agendas des enfants et s'assure qu'ils sont compatibles, pense à prendre le doudou, le livre, le goûter, au cas où le rendez-vous chez le médecin se prolongerait, achète et lit des livres de préparation à la grossesse, de préparation à la parentalité, demande à qui de penser à appeler le médecin, la baby-sitter, à acheter les couches, à aller faire les courses, à sortir le linge de la machine à laver. Il s'inquiète aussi. Et qui dit à l'autre de ne pas s'inquiéter ? Voilà, je pense que ces questions nous font rentrer directement dans le vif du sujet et, comme le disait Robert à l'instant, montrent que le sujet dont on va parler ce soir est extrêmement ordinaire et pour autant extrêmement important. Alors, je vais commencer par essayer de clarifier un peu ce concept de charge mentale et pour cela, je vais repartir d'une bande dessinée qui a été publié en 2017 par la dessinatrice Emma sur son blog. Donc, vous pouvez toujours y avoir accès. C'est une BD qui s'appelle « Fallait demander » et qui a été depuis republiée dans un livre. Je me suis permis de prendre quelques vignettes de cette BD. Donc, sur celle-là, vous voyez trois femmes qui sont manifestement en train de faire les courses, une caissière et puis deux autres qui sont en train de ranger leurs courses ou de les mettre sur le tapis. Et puis, chacune d'elles, tout en faisant ses courses, est en train de penser à tout un tas de choses de la vie ordinaire à laquelle il va falloir s'occuper. Les étrennes du gardien, le panier de légumes, les cotons-tiges sur la liste de courses, etc. Et puis la BD continue et on nous montre toujours ces trois femmes en train de faire leurs courses et à continuer à penser à toutes ces choses dont il faut bien qu'on s'occupe, la chemise propre du conjoint, les rappels de vaccins, etc. Jusqu'à la soirée et donc à ce moment qui en principe est un moment de détente puisque le travail salarié est fini, les enfants sont couchés, on est avec son conjoint, sa conjointe, des amis et malgré tout dans la tête on a cette chose-là qui continue, ce cycle infini de choses auxquelles il faut penser, etc., qui peut parfois nous suivre longtemps. Alors, dans la vignette précédente, j'ai aussi mentionné la définition que Emma donne de la charge mentale. Et cette première définition, elle est simple, mais à mon avis, elle est utile pour entrer en la matière. C'est donc, comme elle l'écrit, le fait de devoir toujours y penser. C'est-à-dire le fait d'être responsable de la gestion et de l'organisation de la vie de la maison, de la vie de la famille. Donc, comme le laissent voir ces images, c'est une responsabilité qui ne quitte pas celles qui en ont la charge et qui les accompagne donc tout au long de la journée, au travail, pendant qu'elles font leurs courses, dans les transports, quand elles regardent une série le soir avant de se coucher, etc. Et donc, le concept de charge mentale, il vient aussi désigner cela, le fait de ne pas vraiment pouvoir décrocher, de ne pas vraiment pouvoir se libérer de cette responsabilité et de ce qu'elle implique. Et par conséquent aussi, du coup, l'absence de disponibilité pour soi-même, d'où bien sûr l'idée de charge, de fardeau, qui fait bien référence à ce poids pris donc par tout ce à quoi il faut que nous pensions. Alors, ça c'était une première définition, je vais vous en donner des éléments plus précis dans la suite de mon propos. Mais je voulais quand même, avant cela, faire un petit détour par les sources de ce concept. Alors, en gros, on peut identifier deux sources pour ce concept, donc deux courants de pensée au carrefour desquels cette idée de charge mentale a émergé. Le premier courant de pensée, c'est la sociologie du travail. Alors, comme vous le savez, je pense sans doute, dans les années 70, les organisations du travail dans les pays occidentaux comme la France, vont changer considérablement. Elles vont changer considérablement en raison de l'augmentation de la part des activités de service dans l'économie nationale, mais aussi en raison des nouvelles manières d'organiser le travail qui vont être précipitées par l'irruption des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce contexte nouveau, donc fin des années 70, début des années 80, le travail ouvrier, bien sûr, demeure, mais le travail d'encadrement devient de plus en plus important. Le nombre de cadres augmente considérablement, et on va attribuer à ces cadres davantage d'autonomie, davantage de responsabilité. On va leur demander davantage d'implication subjective dans le travail. Et du fait, évidemment, de ces transformations de l'organisation du travail, eh bien, la nature des difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés va elle-même évoluer. La pénibilité ne va plus être simplement physique, elle va devenir psychique. Le concept de charge mentale vient de là. Il vient de l'idée selon laquelle donc, des transformations de l'organisation du travail ont produit de nouvelles formes de pénibilité. Et ces pénibilités-là, elles se traduisent par le fait que ce n'est pas tant le corps qui ploie sous la charge physique que l'équilibre psychique qui est menacé potentiellement par un surcroît de responsabilité, un surcroît d'information, une productivité à flux tendu, une gestion de plus en plus complexe des équipes, etc. Donc le concept de charge mentale va d'abord être forgé en parallèle du concept de charge physique pour décrire les effets subjectifs, encore une fois, auxquels sont soumis les travailleurs, en particulier les cadres, dans un contexte donc de transformation des organisations du travail. Ça, c'est, disons, une première source. Et c'est la source qui explique, je pense, l'intervention de notre ministre sur la charge mentale des entrepreneurs. Mais une deuxième source, tout aussi importante, sinon plus, pour rendre compte des usages majoritaires du concept aujourd'hui, c'est évidemment la pensée féministe et la pensée féministe des années 70. C'est en effet au féminisme de la deuxième vague, donc identifiée à cette décennie 70, qu'on doit l'invention du concept de travail domestique. Le concept de travail domestique, il est donc inventé à ce moment-là pour rendre compte de la réalité de l'activité que les femmes effectuent dans le contexte du foyer, pour leur mari donc, et pour leurs enfants. Jusque dans les années 70, en effet, l'activité des femmes, donc il s'agisse du ménage, de la préparation des repas, du fait de faire les courses, ou encore du soin et de l'éducation des enfants, du soin des personnes âgées, ou du soutien émotionnel des adultes valides, toutes ces activités n'étaient pas pensées comme du travail. Le plus souvent, elles étaient interprétées et décrites comme l'expression de la nature des femmes, comme l'expression de leur dévouement naturel au bien-être des autres, ou encore, parfois, comme la manifestation de leur amour pour leur mari et pour leurs enfants. Donc, les féministes des années 70 vont forger les concepts de travail domestique, mais aussi de travail de reproduction. Je pense ici donc à des féministes dont j'ai pas marqué, j'ai marqué le nom de certaines, mais j'ai marqué Christine Delphi, qui est une féministe française bien connue. Également Silvia Federici, une féministe américaine d'origine italienne. On pourrait citer aussi Margaret Bateson. Ce sont toutes des féministes qui ont beaucoup lu Marx. Donc on pourrait éventuellement reparler de ce point-là. Mais voilà, elles forgent ce concept de travail domestique et elles le font pour plusieurs raisons. D'abord pour produire une critique des discours de la nature et de l'amour dont j'ai fait état il y a quelques minutes. Elles le font aussi pour mettre au jour donc, les formes d'exploitation dont le foyer est le lieu. Et enfin, elles le font dans l'espoir que, à partir de là, vont s'élaborer des outils conceptuels qui vont permettre d'analyser, de décrire finalement tout ce que font les femmes au sein du foyer. Les savoir-faire, les compétences sur lesquelles ces activités reposent, mais aussi les difficultés et les contraintes spécifiques que ces activités engendrent donc, pour celles qui les effectuent. Or, une part importante des activités des femmes dans le cadre du foyer relève d'un travail de gestion des activités des autres et d'un travail d'articulation des temporalités. Le plus souvent, ce travail est invisible, mais il est néanmoins extrêmement lourd, extrêmement prenant, et ce, d'autant plus quand il relève de la seule responsabilité des femmes. Donc, c'est donc au carrefour de ces deux traditions, la sociologie du travail et la théorie féministe, que va émerger donc le concept de charge mentale tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, dans cette émergence, les travaux de plusieurs sociologues ont joué un rôle important, mais j'en citerai deux. La première sociologue dont je rappellerai le travail, c'est une sociologue du travail qui s'appelle Monique Eco, qui s'est d'abord intéressée aux femmes qui travaillent à domicile, donc là, qui ont un emploi salarié, hein, ou qui travaillent en tant qu'indépendantes, mais à domicile, avant de se pencher donc sur les femmes qui travaillent hors du foyer. En 84, elle va publier un article dans la revue Sociologie du travail qui s'appelle « La gestion ordinaire de la vie en deux ». Et dans cet article, elle va donc proposer ce terme de charge mentale. Alors, dans cet article, elle part d'un problème qui est très régulièrement pointé par les féministes de l'époque, c'est celui que nous connaissons toujours de la double journée de travail. En gros, l'idée, c'est que de plus en plus souvent, depuis les années 60, les femmes sont dans la position à la fois de travailler hors du foyer, mais également d'assurer le travail domestique au sein du foyer. Donc quand elles rentrent du travail le soir ou avant qu'elles n'y partent le matin, eh bien, s'ouvre une autre journée de travail dédiée au travail domestique. Donc le concept de double journée de travail fait référence à cette réalité-là. Alors Monique Eco ne conteste pas du tout l'existence de cette double journée de travail, hein, mais elle va soutenir que ce concept de double journée ne permet pas de rendre compte de la réalité du travail fourni par les femmes quand elles sont à la fois donc, salariées et en charge du travail domestique. La réalité, explique-t-elle, hein, c'est celle de femmes qui sont sans cesse en train d'organiser les tâches et les temporalités multiples dans lesquelles elles se situent, de façon à pouvoir remplir à la fois leurs obligations professionnelles et leurs obligations familiales. Autrement dit, hein, l'idée de Monique Eco, c'est qu'il n'y a pas un moment de la journée où elles travailleraient pour leur employeur et un autre moment où elles travailleraient pour leur famille. Il y a plutôt, en permanence, un travail de bricolage, d'ajustement, de planification, en vue donc de concilier ces exigences distinctes le plus efficacement possible. Concrètement, ça veut dire profiter de la pause déjeuner pour prendre les rendez-vous médicaux, augmenter sa productivité pour pouvoir partir 10 minutes avant et récupérer les enfants à l'école, échanger des informations sur les colonies de vacances à la pause café avec les collègues, trouver bien sûr une crèche ou une école sur le chemin du travail ou faire les courses en rentrant du travail. Donc tout ceci, souligne Monique Eco, ça implique des compétences et des capacités. Des capacités de mémorisation, de prévision, d'anticipation, d'adaptabilité, de gestion. Et ça implique aussi, bien sûr, de connaître les activités, les temporalités et les lieux dans lesquels les différents membres de la famille évoluent. Donc le terme de charge mentale, qu'elle introduit donc dans cet article, va venir désigner ce travail de gestion et d'organisation de la vie familiale qu'il faut concilier donc avec les impératifs de l'activité professionnelle. Et il permet bien sûr ce terme de décrire la tension, le poids créé par la superposition des contraintes, qui sont bien souvent incompatibles, puisqu'elles proviennent de sphères, la sphère professionnelle et la sphère familiale, qui s'ignorent mutuellement la plupart du temps. Alors, c'est ce qu'explique bien les deux citations que je vous ai mises sur la diapositive. Donc, voilà la première. La notion de charge mentale paraît la plus adéquate à rendre compte de la superposition dont il est question ici. L'enjeu consiste à organiser, donc faire tenir ensemble, les successions de charges de travail, de les imbriquer, de les superposer, ou au contraire de les désimbriquer, de fabriquer des continuités, sorte de fondu enchaîné, de jouer sans cesse sur ce qui marche ensemble et ce qui est incompatible. Et elle ajoute, une fois décrite la dimension concrète de cette activité, ce que ça signifie d'un point de vue psychique pour les femmes. La charge mentale est ainsi faite de ces perpétuels ajustements, de la viscosité du temps qui n'est que rarement rythme et beaucoup plus souvent immanence, où se perd le corps, où se tue la tête, à calculer l'incalculable, à rattraper sur du temps et avec du temps le temps perdu, à faire, à gérer. Elle est lourde aussi de ces minuscules censures qui se disent dans un simple et si fréquent « je n'ai pas le temps ». Alors, la dernière citation en particulier me semble bien mettre en évidence la fatigue psychique et physique engendrée par cette course permanente et par l'effort cognitif qui consiste à faire tout tenir ensemble. Mais elle dit aussi l'impact de la charge mentale sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle des femmes. La responsabilité du travail domestique, du travail de soins, a en effet un impact sur leurs arbitrages professionnels et personnels. Elle peut les conduire à abaisser leurs ambitions professionnelles, à rogner sur leur vie sociale, car il faut bien que les choses soient faites, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Alors, la deuxième sociologue dont je voudrais citer le travail, qui a aussi joué un rôle important dans l'élaboration de ce concept, c'est le travail de Susan Walser, dans un article qui est ensuite devenu un livre américain. Hein. Walser est une sociologue américaine qui s'appelle donc « Thinking about the baby », donc « Penser au bébé », « Gender and divisions of infant care », donc le genre et les divisions du travail de soins aux enfants. Donc le travail de Susan Walser complète, à mon avis, de façon intéressante celui de Monique Ecko. Monique Ecko, hein, je l'ai dit il y a quelques minutes, insistait sur le travail d'organisation et de gestion des tâches et des temporalités. Sur la base d'un travail ethnographique et d'entretien mené auprès d'un grand nombre de couples parentaux, Susan Walser va ajouter à cette description d'autres dimensions de ce travail, tout aussi invisible, mais tout aussi importante pour le maintien de la vie commune et le bien-être des membres de la famille. Elle souligne en particulier que le soin aux jeunes enfants, puisque c'est ce sur quoi elle se concentre, qui revient là encore majoritairement aux femmes, ne consiste pas simplement à être présente à répondre concrètement aux besoins des enfants. Le travail de soin comporte d'autres dimensions qui passent souvent inaperçues, et elle en dégage trois. Qu'elle appelle le souci, enfin le worrying en anglais, donc le fait de se soucier d'eux, ou le fait d'être mentalement habité par la préoccupation constante pour le bien-être de l'enfant. Ce souci, explique-t-elle, c'est ce qui permet d'anticiper et de percevoir les besoins de l'enfant, et puis d'organiser ensuite en amont la manière dont le soin concret va être effectué. Donc j'ai mis à chaque fois une citation des enquêtés de Walser pour vous donner une idée de ce qu'elle a en tête. Mais voilà, une jeune mère lui dit la chose suivante lors d'un entretien. Dans un coin de votre tête, vous êtes toujours responsable de cette personne. Vous pensez tout le temps à cette personne. Donc ça illustre bien cette dimension du souci. La seconde dimension du travail de soins que Walser met en évidence, c'est ce qu'elle appelle la recherche et le tri de l'information, le « processing information ». Cette information, elle concerne les besoins de l'enfant, la manière dont il convient d'y répondre, les types d'experts auxquels il est possible de faire appel en cas de problème, et elle permet du coup de savoir quoi faire au quotidien, mais aussi en cas d'événement inattendu. Alors là, je vous ai mis une citation, non pas d'une jeune mère, mais de son partenaire, témoignant du fait que ce travail, justement, est pris en charge par sa compagne. Il explique, donc, Sarah a lu pas mal de livres et je me contente de la suivre. Elle ne m'a pas dit que je faisais les choses de travers. Bon, donc, jusqu'ici, tout va bien. Et enfin, et bon, cette citation, du coup, fait aussi la transition avec le dernier aspect de ce travail que Walser met en évidence, qu'elle appelle le management du partenaire, c'est-à-dire le fait de savoir ce que le partenaire peut éventuellement accepter de faire ou pas, comment l'amener à prendre en charge de nouvelles tâches de soins. Donc cet aspect du travail de soins effectué par les femmes permet évidemment d'impliquer le partenaire, donc il est de ce point de vue-là plutôt positif, mais comme le souligne Walser, il a aussi un coût. Il a un coût parce qu'il faut évidemment s'organiser en amont, négocier avec le partenaire, s'exposer aussi au refus du partenaire, voire aussi au fait que les choses ne seront pas faites correctement si effectivement le partenaire s'y colle. Et ce coût explique évidemment que les mères préfèrent parfois ne pas demander et faire par elles-mêmes. Elles jugent finalement que c'est moins fatigant de le faire elles-mêmes plutôt que d'organiser en plus donc, le travail et de superviser en plus le travail de leur partenaire. Donc voilà. Alors, Dans la conceptualisation que propose Susan Walser, l'articulation entre des temporalités et des espaces sociaux, qui était donc centrale chez Monique Ecko, passe à l'arrière-plan. Elle se concentre sur le travail de soins proprement dit et sur la manière dont ce travail, qui est à la fois donc cognitif mais aussi émotionnel, mobilise la subjectivité des mères. Cependant, comme Ecko, elle souligne que cette mobilisation, en raison du temps et de l'énergie qu'elle suppose, conduit souvent les mères à faire passer au second plan leur carrière et à mettre entre parenthèses leur vie sociale. Geste que les pères, en revanche, font moins, ou pas, car ils ne se considèrent pas comme les premiers responsables du travail de soins. D'où la position paradoxale dans laquelle se retrouvent les mères et qu'exprime bien cette citation donc, de Walser. Les femmes, écrit-elle, sont les patronnes, en ce sens qu'elles portent le plan d'organisation et délèguent des tâches à leurs partenaires. mais elles se débrouillent sans les privilèges qu'ont en général les cadres rémunérés. Leur responsabilité finale en matière de soins aux enfants peut en fait les placer dans une position d'impuissance dans leur relation avec leur mari, car pour de nombreuses femmes, cela signifie une perte de pouvoir économique et donc une dépendance plus grande à l'égard de leur partenaire masculin. Donc vous voyez l'idée qui se dégage de cet extrait de Walzer. Hein. La charge mentale implique une responsabilité, mais c'est une responsabilité sans privilège. Alors, maintenant qu'on voit un peu mieux, je pense, de quoi il s'agit donc, quand on parle de charge mentale et à quoi donc renvoie ce concept, je voudrais revenir sur deux questions du titre, ou posées par le titre choisi pour cette conférence, qui n'est pas de moi, mais que je trouvais vraiment excellent. Pourquoi ce travail est-il invisible? Et pourquoi ce travail est-il dévolu aux mères? Et parallèlement d'ailleurs, pourquoi accepte-t-elle de le faire? C'est pas exactement la même question et on pourra revenir sur les deux. Alors, première question, pourquoi est-ce que ce travail est invisible? Pour répondre à cette première question, on peut, je pense, mobiliser trois explications. La première chose qu'il faut noter, c'est que le travail auquel renvoie le concept de charge mentale est certes un travail, au sens où il implique un effort, la mobilisation de compétences, de connaissances, de savoir-faire, au sens aussi où il est effectué au service de la réalisation d'un but utile à la collectivité, prendre soin des besoins des membres de la famille. Mais ce travail, bien sûr, a des spécificités. C'est un travail psychique, émotionnel, plutôt que manuel, et c'est un travail qui ne produit rien, notamment pas de marchandises. C'est un travail de service, pourrait-on dire. De ce point de vue-là, ce travail s'écarte des deux paradigmes qui, dans la modernité, ont permis de penser le travail et sa dignité. Le travail ouvrier, d'une part, et le travail artistique, d'autre part. La conséquence, c'est que son objectivation, la description de ce que ce travail recouvre très concrètement, est particulièrement difficile. Et Eco comme Walzer note que les femmes elles-mêmes tentent à ne pas le voir, tant il est intégré à leur fonctionnement habituel et non considéré socialement comme un travail. Alors, cela étant dit, on pourrait rétorquer à cette première explication que la dimension cognitive ou immatérielle, si vous voulez, et l'absence de production sont aussi des caractéristiques de nombreux autres métiers qui se sont développés dans la période moderne et contemporaine, notamment, j'en parlais tout à l'heure, les métiers de direction et d'encadrement. Donc, pour rendre compte de l'invisibilité du travail effectué par les femmes dans le cadre du foyer, il faut avancer d'autres éléments d'explication. Alors, le deuxième élément qu'on peut avancer, c'est que ce travail se déroule dans la sphère privée ou domestique, et non dans la sphère publique. Or, la modernité politique s'est construite sur l'idée qu'il s'agissait là de deux sphères séparées, et que la sphère domestique, conçue comme la sphère de l'affectivité, comme la sphère des sentiments, était étrangère aux considérations économiques comme aux relations de pouvoir. Celle-ci était au contraire l'apanage de la sphère publique, qu'on la comprenne comme sphère des échanges économiques ou comme sphère politique. Dans la famille moderne, dont la conception se précise au XVIIIe siècle, prévaut donc ce qu'on va appeler une division des rôles marquée par le genre. Les hommes travaillent à l'extérieur du foyer et doivent soutenir économiquement la famille. Les femmes s'occupent du foyer où elles prennent soin du bien-être physique et émotionnel des membres de la famille. Cependant, l'activité des femmes n'est pas conçue comme du travail parce qu'elle se déroule dans la sphère domestique, définie par contraste et par différence avec les sphères économiques et politiques. Alors, cette ligne d'explication m'amène à la troisième, qui me semble aussi très importante, qui est la suivante. En définitive, on peut penser que si le travail de soins des membres de la famille et le travail d'organisation de la vie familiale qu'effectuent les femmes est invisible comme travail, c'est parce qu'il est conçu, et j'y ai fait référence déjà, comme l'expression de la nature des femmes. À ce titre, il ne demanderait pas d'efforts particuliers, il ne reposerait pas sur des compétences ou des connaissances que l'on devrait acquérir, il relèverait d'une capacité innée, naturelle, possédée par les femmes par le simple fait qu'elles sont femmes. Pourquoi donc, dans ces conditions, souffrirait-elle d'en avoir la seule responsabilité? Alors, cette conception de la féminité, qui va évidemment de pair avec une conception symétrique et inverse de la masculinité, s'impose, elle aussi, au début de la modernité. On la trouve, par exemple, exprimée chez un philosophe comme Rousseau. Elle va jouer évidemment un rôle central dans la forme moderne que va prendre l'oppression des femmes, oppression qui passe par l'injonction au mariage et à la maternité, le confinement au sein du foyer, la dépendance juridique et économique à l'égard du mari. Mais elle va également jouer un rôle important dans le développement du mode de production capitaliste. Car si le mode de production capitaliste a besoin de travailleurs, il a aussi besoin de femmes qui fabriquent, élèvent et prennent soin de ces travailleurs dans le cadre du foyer et de préférence de façon gratuite. Alors, cette réflexion sur les raisons de l'invisibilité conduit donc aussi à la seconde question que je voulais aborder. Pourquoi concevoir la charge mentale comme le fardeau des mères spécifiquement ? Et j'ai déjà commencé à répondre un peu à cette question. Donc, pourquoi associer travail de soins et charge mentale aux femmes ? Pourquoi les femmes font-elles ce travail alors même qu'il pèse sur leur bien-être, sur leur réussite et sur leur accomplissement professionnel, sur leur vie sociale. Pour répondre à ces questions, on ne peut pas ne pas tenir compte de la manière dont le genre s'est construit dans les sociétés occidentales modernes. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas tenir compte de la manière dont on a défini la féminité et la masculinité d'une part, la maternité et la paternité d'autre part. Dans ces sociétés, les femmes ont été définies par leur capacité à enfanter, à aimer, à prendre soin des autres. Parallèlement, les hommes ont été définis par leur rationalité, leur capacité à transformer le monde et à gouverner les autres. Ces normes de genre ont du coup produit des rapports différenciés à la parentalité. Pour les femmes, être mère est une injonction forte. Ne pas avoir d'enfants, ne pas en vouloir, c'est potentiellement transgresser l'ordre du genre, c'est risquer de voir sa féminité mise en question. Car c'est dans la maternité que les femmes sont censées s'accomplir pleinement et montrer qu'elles sont réellement des femmes. Pour les hommes, il en va tout autrement. Bien sûr, pèse aussi sur eux un grand nombre d'injonctions et de normes. Mais il n'est pas requis pour eux d'être pères pour être des hommes. Et s'ils le deviennent, il est acquis que cela viendra agrémenter leur réussite, mais non pas la définir de manière centrale. Alors bien évidemment, beaucoup a été fait par les mouvements féministes et notamment par les mouvements de la deuxième vague auxquels je faisais référence tout à l'heure, donc la décennie 70, pour remettre en question ces normes de genre, pour remettre en question les équations posées donc entre d'un côté féminité et maternité et de l'autre maternité et accomplissement de soi. Les concepts de travail domestique et de charge mentale ont précisément joué un rôle dans la dénaturalisation des activités de soins et dans la mise au jour de leurs spécificités, de leurs difficultés comme travail. Mais évidemment, beaucoup reste encore à faire. Car si aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, les femmes constituent une part très importante de la population salariée, et c'est notamment le cas en France, si elles font des études supérieures, qu'elles réussissent d'ailleurs globalement plutôt mieux que les garçons, si elles accèdent davantage aux fonctions dirigeantes qu'il y a 30 ans, que ce soit dans la sphère économique ou dans la sphère politique, il reste vrai que le travail de soins et le travail domestique continuent de leur revenir très majoritairement. Or, c'est précisément cette situation d'être obligé de concilier le travail salarié et le travail de soins qui engendre la charge mentale. Apparaît du coup ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la révolution féministe des années 70. Celle-ci a permis à de nombreuses femmes d'accéder aux mêmes opportunités professionnelles que les hommes. Mais elle n'a pas permis de remettre en question l'organisation concrète du travail de soins et les normes qui sous-tendent cette organisation. Les femmes demeurent les principales responsables de ce travail et les entreprises, comme les administrations, continuent d'organiser le travail productif comme si les travailleurs naissaient adultes et dépourvus de tout besoin de soins. Face à ce constat, deux questions se posent alors. Pourquoi changer l'organisation du travail de soins et comment la changer? Je précise par ailleurs que j'adore ce tableau de Klimt et que c'est sans doute une des plus belles évocations que je connaisse de la maternité. Alors, pourquoi changer d'abord? Bon, on peut évidemment pointer plusieurs raisons. C'est évidemment une fausse publicité, mais je l'ai trouvé particulièrement drôle. Alors, plusieurs raisons pourquoi changer. Bon, d'abord, on l'a vu un peu, le travail de soins et le travail d'organisation de la vie familiale sont des tâches exigeantes, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue affectif. Elles sont d'autant plus difficiles à faire qu'elles ne sont pas reconnues et qu'elles doivent être conciliées avec les exigences de la vie professionnelle contemporaine, qui, encore une fois, ne tient généralement pas compte des responsabilités domestiques qui incombent aux femmes, ou alors négativement, en anticipant des carrières hachées, en anticipant des horaires distincts, etc. Le résultat, c'est évidemment l'épuisement des femmes. Et cet épuisement en lui-même constitue déjà, je pense, une raison suffisante de vouloir transformer l'organisation du travail de soins et du travail domestique. Mais ça n'est pas la seule. Parallèlement, on constate aussi que la répartition inégale du travail de soins et du travail domestique engendre des tensions et des conflits entre les partenaires. Susan Walser le met très bien en évidence, en soulignant en particulier la souffrance induite par la non-reconnaissance du travail. Comme si ce travail n'avait pas un coût, comme s'il n'impliquait pas de sacrifice, comme s'il allait de soi. Elle souligne aussi le ressentiment que les femmes éprouvent à l'égard de leur conjoint, qui conserve, même après l'arrivée des enfants, une liberté plus grande, davantage de temps pour lui, liée au fait qu'il ne se conçoit pas comme le principal responsable du soin des membres de la famille. Donc, apaiser ces tensions semble constituer, là encore, une raison intéressante de vouloir changer un peu les choses. La troisième raison que l'on peut mentionner, pour souligner donc la nécessité d'un tel changement, c'est le fait qu'en l'absence de ce changement, on n'avancera sans doute pas beaucoup sur la question de l'égalité femmes-hommes. Depuis les années 80, les lois sur l'égalité salariale et professionnelle se multiplient. Mais les progrès sont très lents et nous sommes actuellement dans une phase de stagnation. Si c'est le cas, c'est notamment parce que la question de l'organisation du travail de soins, la question de son articulation avec le travail salarié, ne sont pas suffisamment posées. J'ajoute qu'une des raisons d'en faire une question centrale de notre débat public, c'est de ne pas non plus aggraver les inégalités entre femmes. Beaucoup de femmes qui occupent des emplois qualifiés, reconnus et bien rémunérés, résolvent le problème de la non-implication de leurs conjoints dans le travail domestique et dans le travail de soins en employant d'autres femmes pour en faire une partie. Mais ces emplois sont, on le sait, souvent des emplois précaires, peu reconnus et mal rémunérés. Donc les multiplier ne peut sans doute pas être une bonne solution. Je finirai enfin l'énoncé de ces différentes raisons de la transformation en rappelant un point bien connu. C'est par l'imitation que les enfants apprennent, se projettent dans l'avenir, construisent leurs identités. Tant qu'ils verront leur mère prendre en charge la quasi-totalité du travail domestique et du travail de soins, les enfants continueront de penser qu'il s'agit là de tâches spécifiquement féminines. Cela veut dire que les petites filles intégreront très tôt que c'est là ce qui est socialement attendu d'elles, y compris si elles ont des ambitions professionnelles, et que les petits garçons intégreront très tôt le fait que leur identité masculine suppose qu'ils se détournent de ces activités. Autrement dit, tant que perdurera une répartition inégale du travail domestique et du travail de soins, les normes de genre auront de beaux jours devant elles. Alors, me dira-t-on maintenant, si on est un tant soit peu convaincu par les arguments que j'ai essayé de vous présenter, comment changer ? Là encore, c'est un détournement. Il y a toute une série de détournements de Martine. Je vous conseille de chercher ça sur le net, c'est extrêmement drôle. Donc, si on est convaincu par la nécessité de changer, comment le faire ? Alors, je me contenterai ici de quelques pistes en matière de conclusion. Pour agir sur ces questions-là, il faut prendre le problème à plein de niveaux différents, parce que en réalité, il est lié à tout un tas de pratiques, d'institutions de différents niveaux. Alors, d'abord, il me semble que c'est aussi l'une des raisons de cette conférence ce soir, il y a évidemment un enjeu à rendre visible le travail de soins, le travail domestique et ce qu'il implique concrètement pour celles et ceux, aussi parfois, qui l'effectuent. Donc, il faut analyser les pratiques et il faut forger des concepts pour penser ces pratiques et il faut diffuser ces concepts. Il y a donc un rôle à jouer pour les sciences humaines et sociales dans l'animation du débat public. Et encore une fois, je me réjouis que ce soit ce que nous faisions ce soir ensemble. Donc, déjà, un enjeu à nommer. D'autre part, il y a des choses à faire, évidemment, au niveau des couples. Au niveau des couples, il faut évidemment essayer de mieux partager, c'est-à-dire aussi de mettre en discussion ce qui est à faire et la manière de le faire. Pour les femmes, il faut apprendre à refuser de faire et de prendre en charge. Il faut apprendre l'égoïsme, comme le dit la psychodynamicienne du travail Pascale Molinier, dont je vous recommande le travail génial. Pour les hommes, il faut prendre la mesure de ce qu'ils ne voient pas, prendre la mesure aussi du poids de l'histoire dans la construction des normes de la féminité. Il faut apprendre le souci des autres. ce qui passe d'abord et avant tout par la pratique. Donc cette remarque m'amène au troisième point, au niveau social. Parce que le couple, c'est bien, mais le couple et son fonctionnement sont évidemment déterminés par tout un ensemble de facteurs de niveau supérieur. Au niveau social, il importe bien évidemment de questionner les normes de genre, de se doter d'outils permettant de les faire évoluer. Par exemple, en légiférant sur le congé paternité, ce qui a été fait la dernière fois en France en 2021, le congé paternité a été sensiblement rallongé. En légiférant aussi, pourquoi pas, sur le congé parental, il y a là un projet de loi qui va être porté par le gouvernement actuel pour revoir les modalités de prise de ce qui s'appelait avant le congé parental, le réduire, mais aussi obliger à sa répartition plus grande entre les conjoints, c'est surtout le point qui m'intéresse. Car nous savons évidemment que le travail domestique, le travail de soins s'apprennent en faisant. Et que, bien sûr, les premiers mois de la vie des enfants sont décisifs pour prendre la mesure de ce que signifie et implique prendre soin des autres. Il faut donc que les pères soient là, dans ces moments cruciaux, et que les mères ne soient pas laissées seules. Enfin, on peut souligner qu'il y a sans doute aussi des choses à faire au niveau économique. Les entreprises peuvent accompagner la disponibilité des pères auprès de leur famille. Elles devraient aussi repenser leur activité en se rappelant que le travail de soins qui est fait en dehors de leurs murs, dans les familles, mais aussi dans les services publics en général, ce travail est essentiel pour leur activité. Sans ce travail de soins, pas de travailleurs, pas de vie sociale, pas de monde commun. Donc transformer l'organisation du travail de soins pour permettre aux femmes et aux hommes de s'accomplir dans les différentes dimensions de leur existence d'être humain suppose donc de repenser l'organisation du travail en général et sans doute aussi la manière dont nos sociétés conçoivent le travail. Le fardeau invisible des mères, loin donc de concerner seulement les mères, constitue une question centrale posée à nos manières de vivre ensemble. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va essayer de passer le micro s'il y a des questions. Moi, j'en ai une avant que de donner par la salle. Est-ce qu'il y a assez d'études maintenant en sciences sociales pour savoir dans un couple homosexuel, soit des deux hommes qui ont adopté, soit deux femmes, s'il y a des changements, puisqu'il s'agit effectivement de remodeler les normes de genre, est-ce qu'il y a suffisamment d'études là-dessus ?
Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et en fait, les résultats sont assez intéressants, parce qu'en réalité, ce qu'on observe quand même beaucoup, c'est des formes de répartition inégale qui se mettent en place avec le temps. Donc, Le schéma général du couple hétérosexuel, selon lequel donc, il y a un apporteur de revenus et un pourvoyeur de soins, se remet d'une certaine manière en place. Ce qui montre bien que, bien sûr, il y a la question des identités de genre, mais pas seulement. En réalité, tant qu'on n'aura pas transformé nos manières de produire, nos manières d'organiser les temps sociaux, voilà, on va se retrouver avec des formes d'inégalité de ce type-là. Pour le moment, c'est ce qui a l'air de ressortir de ces travaux.
Entre deux femmes qui sont en couple et qui ont un enfant.
Oui, il risque de s'opérer une répartition qui est liée au fait que, aujourd'hui, parce que ce qu'il faut voir aussi, ça j'en ai pas beaucoup parlé, je l'ai simplement évoqué en filigrane, mais le monde du travail productif est extrêmement exigeant, en fait, avec ses travailleurs et ses travailleuses. Donc, concilier une vie de famille avec les contraintes qui proviennent de la manière dont le monde productif est organisé en général implique de trouver des formes de conciliation qui vont se révéler le plus souvent être inégalitaires. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux partenaires qui va investir sa carrière professionnelle beaucoup, souvent au détriment de l'autre. Alors après, ce qu'on observe aussi, et j'y ai un tout petit peu fait allusion aussi, c'est qu'il y a aussi des variantes qui ne sont pas liées simplement à l'orientation sexuelle, mais à la classe sociale. Dans les classes sociales aisées, les femmes sont en capacité de s'investir beaucoup plus dans leur vie professionnelle et de faire valoir leurs ambitions professionnelles, mais ça a aussi un coût. C'est-à-dire que la plupart du temps, et Pascal Molini a écrit là-dessus, ça va signifier qu'elles vont faire appel à des nounous, à des aides à domicile, à des femmes de ménage, qui sont souvent des femmes issues des quartiers populaires ou de classes populaires, qui sont souvent des femmes qui sont mal rémunérées, qui, parce qu'elles s'engagent dans le travail de soins pour ces familles, sont mises en difficulté pour effectuer le travail de soins chez elles. Donc, c'est pas non plus, voilà, ce sont des arrangements qui produisent en fait en cascade d'autres formes d'inégalités. Et donc, il faut essayer d'avoir tout ça en tête, je pense, pour réfléchir à comment on pourrait faire tous et tout ensemble. Parce que le problème, en fait, de là où on vient, c'est que, d'une certaine manière, il y a une sorte de, voilà, de, à la fois de marginalisation de cette question. Enfin, c'est pas une question politique, hein, voilà, bon. Mais il y a aussi, une sorte de privatisation de la question. C'est-à-dire que les familles et les femmes sont laissées finalement un peu à elles-mêmes pour s'occuper de cette chose-là. Alors même que, encore une fois, toute société fonctionne sur la base du travail reproductif, quels que soient les concepts qu'on utilise, ou du travail de soins, ou du travail de subsistance, ou du travail de care. Et donc, on en est tous et toutes dépendantes, qu'on soit jeune, vieux, adulte, valide, invalide, en bonne santé, pas en bonne santé, etc. On ne s'en rend pas compte, parce que comme tu le disais toi-même, il est là en permanence. En fait, comme le dit très bien là encore Pascal Molinier, c'est un travail dont on se rend compte de l'importance quand il arrête d'être fait. Et c'est la raison pour laquelle, le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des femmes, un certain nombre d'associations féministes ont appelé, c'est une tradition ancienne, mais à une grève féministe. On arrête de faire le travail domestique et le travail de soins. Bon, et là, en fait, si on arrête vraiment, et les professions soignantes le savent mieux sans doute que beaucoup d'entre nous, si on arrête vraiment, c'est la catastrophe. Hein. Et en même temps, tant qu'on n'arrête pas, on n'est pas en position de renégocier la manière dont ces choses-là sont socialement organisées.
Bon, on va, s'il y a des questions dans la salle, Bruno.
J'ai une petite question, toujours un petit peu difficile de s'exprimer en tant qu'homme dans ce genre de sujet, parce qu'on a un peu l'inquiétude d'entendre les mêmes reproche qu'on pourrait entendre dans d'autres contextes sur le fait, de toute façon, vous êtes de mauvaise volonté, vous n'avez rien à foutre. C'est le problème, de mon point de vue, en vous entendant, je me suis posé la question maintes fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions, en fait. Et le problème, c'est, je crois, principalement, vous l'avez dit, le modèle familial et ce que les enfants voient de la répartition des tâches dans le foyer. Ma question, c'était, est-ce que finalement l'éducation n'aurait pas un rôle à jouer parce que, enfin, je voulais prendre un parallèle qui peut paraître un peu éloigné, mais dans le soin, par exemple, dans la médecine, on se rend compte que, alors que la médecine s'est faite pour prendre soin, il y a des situations de mauvais traitement ou de maltraitance ou de violence dans les soins qui ont été identifiés et dénoncés. Et pendant très longtemps, on s'est dit, de toute façon, le soin, les soignants, c'est des gens qui ont vocation à être exactement ce que vous disiez de la position des femmes vis-à-vis de la famille. Les soignants sont des gens qui ont vocation à avoir cette empathie, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays où, bien avant la France, ça existe maintenant en France aussi, où il y avait des cours sur le savoir-faire et le savoir-être. Et on se rend compte que le soignant n'est pas forcément de nature bienveillante ou de nature empathique, pas toujours en tout cas. Et comment l'éducation, l'école pourrait apporter quelque chose à cette question ?
Mais je pense que c'est une excellente question et je pense que ça touche l'un des points centraux. C'est-à-dire que il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. Bon, il y a la question de la famille et de l'organisation familiale. Je pense que là, c'est relativement simple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes s'impliquent, parce que le concept de charge mentale, en fait, c'est simplement la part psychique de ce travail de soins, d'organisation de la vie familiale. Donc, à partir du moment où on s'implique concrètement dans l'activité, en fait, nécessairement, on va avoir en vue ce à quoi il importe de penser, comment il importe d'organiser les choses, etc. Donc, il faut qu'au niveau familial, il faut que les hommes s'impliquent. Mais il faut aussi, du coup, que les femmes leur disent aussi de le faire. Et voilà, enfin, parfois, prennent du recul par rapport à certaines choses, acceptent aussi peut-être que les choses ne soient pas faites comme elles-mêmes les auraient faites. Après tout, c'est pas très grave, en ayant conscience que voilà, l'organisation du couple parental va aussi produire des effets éducatifs sur les enfants. Donc évidemment, hein, comme je le disais, bon bah si des enfants grandissent en étant tout le temps transportés au tennis, à la danse, par leur mère, en étant systématiquement gardés par leur mère quand ils sont malades, etc. Bon, forcément, voilà, ce genre de stéréotype va se reproduire. Après, je pense que les écoles ont aussi évidemment un rôle à jouer. Moi, il me semble qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes qui sont faites sur ce plan-là, notamment dans les petites classes, en classe de primaire. Là, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais on a une spécialiste de philosophie de l'éducation dans la salle, donc peut-être elle pourra compléter mon propos. Mais par exemple, moi j'ai un fils de 9 ans qui est en CM1, et en fait, depuis toute sa scolarité dans cette école, au début de l'année, ils ont une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une classe. C'est un collectif dans lequel on vit ensemble et qui est basé sur, qui a certains besoins. Il y a des besoins collectifs, il y a des besoins individuels. Il faut qu'on trouve une manière de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits de manière à ce que le collectif fonctionne bien et que chacun s'y sente à sa place. Et ça va impliquer plein de choses, tout un tas de travail. Donc, comment est-ce qu'on identifie ce que ça va impliquer? Comment est-ce qu'ensuite on discute de la répartition? Et par exemple, voilà, comment est-ce qu'on règle les problèmes qui sont liés à la division du travail? Parce que toute forme de division du travail va susciter des problèmes. Et dans la classe de mon fils, chaque semaine, il y a un conseil de classe dans lequel, voilà, on va discuter de ça. Il y a une identification des charges qui sont nécessaires à la vie collective. Il y a un roulement. Donc chacun va s'occuper de nettoyer les tables, de passer le balai, d'aller chercher le cahier de texte, de donner la parole. En plus, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation des tâches en fonction, est-ce que ce sont des tâches politiques ou des tâches domestiques. Il y a cette idée que pour vivre, pour fonctionner en tant que collectivité, il y a un certain nombre de choses à faire. Et ça, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, sinon ça ne fonctionne pas, ou sinon ça crée des inégalités, des tensions, du ressentiment, etc. Donc, il y a des choses à faire au niveau familial, il y a des choses à faire aussi dans nos organisations, mais y compris dans nos organisations de travail. Et là encore, je reviens sur, à mon avis, l'importance que ça a de ne pas penser ces questions simplement dans la sphère privée ou dans la sphère éducative, mais vraiment de réfléchir à, en tant qu'individu, on est amené à prendre part à différentes collectivités de vie et de travail. Dans ces collectivités, pareil, il y a toujours des besoins, il y a des règles qui vont organiser la division du travail, qui vont créer ou pas des formes d'inégalité. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ça soit discuté, déjà visibilisé, et puis éventuellement réparti. Par exemple, moi, dans mon université, on fait de la sous-traitance avec une entreprise qui emploie des personnes pour faire le ménage dans nos bureaux et dans nos locaux, et dont on sait en fait qu'elle a des pratiques d'employeur très contestables. Donc on a essayé de se mobiliser, alors bien sûr c'est de la sous-traitance, donc nous on peut pas directement agir, mais on a quand même essayé de se mobiliser pour dire en fait ces gens-là prennent soin de notre environnement de travail, comment est-ce que nous on peut prendre soin de leurs conditions de travail? Parce que leurs problèmes sont nos problèmes, en fait. Donc ça m'amène un peu loin de votre question. Mais ce que je voulais dire aussi, ce sur quoi je voulais rebondir dans ce que vous avez dit, que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'effectivement, l'attention à autrui, la capacité à en prendre soin, c'est absolument pas inné. Ce sont des compétences extrêmement difficiles. Ce sont des compétences qui, en plus, se déploient différemment selon les contextes professionnels, selon les contextes culturels. Donc, prendre soin, ça ne veut pas forcément dire la même chose exactement aux mêmes endroits. Donc, ce sont des compétences qu'on a besoin, effectivement, d'apprendre et auxquelles on a besoin de se former. Mais je pense aussi que pour ce qui concerne tant nos organisations familiales que l'école, que les organisations de soins, Il faut faire très attention au fait qu'il y a des conditions organisationnelles qui permettent ou pas de mettre en œuvre ces compétences une fois qu'on les a acquises. Et pour les soignants, c'est clair. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un soignant, avec son expérience, sait prendre soin. On sait que ce qui provoque de la maltraitance ou des formes de violence, ce sont en réalité les conditions de travail dans lesquelles un certain nombre de soignants sont placés qui les empêchent de bien travailler ou de travailler comme ils aimeraient le faire. Merci. Donc voilà, je pense qu'il faut jamais, je dirais, trop individualiser ou trop moraliser les réflexions sur ces questions. Il faut se demander que peuvent nos organisations et que font-elles pour nous permettre de mieux prendre soin.
Même pas, j'ai même pas parlé de l'école. Merci Marie pour ton intervention. Non, c'était juste pour une réflexion que je me faisais aussi en t'écoutant, parce que tu as parlé beaucoup de couple. Et là, justement, c'est pour rebondir sur le fait que le problème, il est vraiment politique et question d'organisation aussi du monde du travail. C'est que les charges mentales, elles se posent aussi pour les femmes qui vivent seules.
Oui, tout à fait.
C'est ça aussi. Et il me semble que tu n'as pas beaucoup parlé de ce cas de figure qui est vraiment une réalité sociologique très, très forte. Et pour dire que pour les femmes qui sont pas en couple et qui se retrouvent toutes seules à gérer les enfants, là c'est bien sur le politique qu'il faut se reposer pour éviter ce type d'écueil.
T'as tout à fait raison. C'est vrai pour les femmes qui vivent seules. Ça peut être vrai aussi pour les femmes qui vivent seules sans enfants, qui ont souvent la charge des parents âgés. C'est-à-dire qu'il y a des attributions de responsabilité qui sont habituelles, quoi. Donc t'as raison.
Tout d'abord, merci pour cette conférence. C'est vraiment très intéressant. Alors, je fais un lien avec la présentation de Roberto Maggiori. Moi, je suis entrepreneur et je suis maman d'une petite fille de 15 mois. Donc, je dois avouer que le thème me parle particulièrement. En plus, je suis la seule source de revenus de mon foyer en ce moment. Donc, c'est vraiment d'actualité pour moi. Ce que je trouvais intéressant, en tout cas dans votre présentation, c'est que j'ai l'impression en fait que la charge mentale fait un peu référence finalement à des thèmes comme le burn-out pour les salariés, qui généralement sont quand même pris en charge médicalement. Je me posais la question justement d'ailleurs si finalement dans le monde médical il y avait des prises en charge pour cette notion de charge mentale qui finalement n'est pas reconnue. Donc ça c'est une de mes premières questions. Je ne sais pas si vous avez la réponse, et c'est vrai que malheureusement un des membres du SCHPG est parti sur le sujet. Et l'autre point, c'est ce qui m'interpellait, c'est que finalement on a beaucoup dans la préparation à la maternité. Il y a beaucoup de choses sur comment va se passer l'accouchement, comment est-ce qu'on peut sauver son bébé si on a l'impression qu'il est en train de s'étouffer, etc. Mais finalement, des thèmes sur l'après, justement sur la gestion de couple, le baby clash ou justement la charge mentale, il y a vraiment rien en fait dans les ateliers qui sont proposés, en tout cas, enfin, en ce qui me concerne pour mon expérience, il n'y en avait pas. Et je me demandais justement dans les préconisations que vous faites, finalement, si les hôpitaux et les maternités n'ont pas un rôle à jouer aussi sur ce thème-là pour aborder ce sujet en amont. Pour les couples, alors souvent c'est seulement les mamans qui vont dans ces ateliers, mais des fois il y a quand même quelques papas, pour justement finalement faire une sorte de prévention de ce sujet qui est un vrai sujet en fait, je pense, pour les... Il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de la charge mentale. Voilà, c'était un peu mes deux questions. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus dans le monde médical.
Je sais qu'on parle de syndrome d'épuisement maternel ou de syndrome d'épuisement parental parfois, donc en référence, je pense, au type de charge et de tension que produit, et de fatigue, hein, à la fois psychique et physique, que produit ces premiers temps où il faut tout concilier, etc., ou même la carrière parentale future, hein, je dirais. Donc je sais que ça existe. Après, je ne sais pas si, très honnêtement, je pense que c'est plutôt une catégorie populaire, hein, qui permet effectivement de nommer en fait, hein, et de décrire le sentiment de très grande fatigue, d'épuisement, qui peut être consécutif à la charge mentale, à une forte charge mentale. Et effectivement, c'est sans doute pas un hasard, hein, vous dites, ça me fait aussi penser à la question du burn-out. Bon, je l'ai dit, hein, l'une des sources quand même de cette réflexion, c'est aussi la sociologie du travail et l'idée selon laquelle on est finalement, on parlait de Hartmut Rosa tout à l'heure, hein, mais on est dans des dans des organisations sociales qui soumettent chacun, chacune, alors évidemment beaucoup plus certaines que d'autres, mais quand même un grand nombre de gens, à des injonctions très nombreuses, souvent contradictoires, et on sait ce que ça produit en termes de souffrance psychique au travail. Donc ça, c'est une thématique qui a émergé que récemment, hein, au tournant des années 2000 en France. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont faits autour de ça. Mais encore une fois, donc, que vous fassiez un parallèle, moi, ça me semble assez pertinent, parce que ce que dit Walzer, c'est que finalement, ces femmes-là, les femmes dont elles parlent, elles font un métier de cadre suroccupé, en fait. Mais sauf qu'elles le font sans que ce soit reconnu, sans que ce soit rémunéré, et sans que ce soit considéré comme ayant une quelconque valeur pour quiconque. Donc, le parallèle que vous faites, à mon avis, est pertinent. Après, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que, du coup, c'est pas encore reconnu ou étudié sous cet angle-là. Je pense que c'est lié au fait qu'on continue quand même d'avoir du mal à penser ces trucs-là en termes de travail. Et du coup, comme on est encore dans cette vision, voilà, un peu idéalisée de la famille, du couple, et ce que vous dites sur la préparation à l'accouchement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tout se passe comme si, une fois que l'enfant paraît, nous serions naturellement capables d'affronter tous les défis, de résoudre tous les problèmes, etc. Alors qu'évidemment, ça n'est absolument pas le cas. Il faut beaucoup plus que de l'amour et de la bonne volonté. Donc effectivement, je pense que vous avez aussi raison. En général, et ça a été rappelé par Edwige, c'est un problème politique. Donc ça se pose au niveau de la collectivité dans son ensemble. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que chaque organisation, chaque institution peut faire pour faire sa part dans la mise en débat et la discussion autour de cette réorganisation. Et ce que vous dites sur les préparations à l'accouchement me semble tout à fait pertinent, c'est-à-dire évidemment impliquer les pères quand ils sont là, et puis mettre aussi en discussion le « ok, une fois que l'enfant sera là, comment on va s'organiser en fait ?» Qui va faire quoi? Qui va prendre en charge quoi? Quels sont les sacrifices qui vont devoir être faits? Et donc, comment est-ce qu'on négocie ces sacrifices de façon à ce que ça ne pèse pas toujours sur les mêmes, de façon à ce que ça soit reconnu aussi et valorisé pour la collectivité familiale? Ça, ce sont évidemment des questions centrales.
Oui, bonsoir. Je voulais répondre, du coup ça va répondre en partie à ce que vous avez proposé. Je voulais proposer des pistes surtout, et puis au docteur Carbone. Il y a deux choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. Je suis psychologue clinicienne et il y a vraiment un point commun là et central. À la faculté de médecine de Nice, il y a un enseignement qui existe depuis 3 ans, qui est porté par le professeur Alain Percival, qui est professeur en psychologie et qui est au département d'éthique. Et nous avons créé un programme qui s'appelle le Cure and Care. Et ce programme, propose 3 heures d'enseignement annuel. Alors, c'est peau de chagrin, mais on les propose aux médecins pour les compétences relationnelles, enfin aux futurs médecins. Donc tous les étudiants en médecine maintenant sont pris en charge par une équipe de psychologues qui enseignent et transmettent ce que disait le docteur Carbone, il n'y a pas forcément cette capacité à faire du care. Les médecins sont souvent dans la technique, ils ne sont pas forcément formés aux entretiens thérapeutiques. Et donc même si c'est que 3 heures par an pendant leur cursus, mais en tout cas ça maintenant c'est quelque chose qui existe, ça existe à Nice, on espère vraiment que ça va se développer plus largement en France. Et ensuite, par rapport à ça, il y a eu un cas clinique qui était très intéressant dans le cadre de ce programme. Il y avait une femme qui, donc c'était une simulation de cas clinique, et il y a une femme qui dit, elle est en grossesse, elle vient pour, là on est sur l'entretien motivationnel, elle veut arrêter de fumer. Et puis elle dit, ouais, mais à cause de mon mari, il me stresse, elle a déjà un autre enfant. Enfin, le cas clinique, il reprend vraiment tout ce qui a été dit ce soir sur la charge mentale. Et il y a un médecin, grâce à ce programme qu'on porte et les petits trucs qu'on peut leur transmettre à ces jeunes étudiants en médecine, ça participe à l'éducation thérapeutique. Et en fait, il lui a dit, mais madame, moi, ça m'a vraiment surpris, parce qu'il s'est posé presque en médiateur. Il a dit, mais madame, pourquoi vous ne prenez pas rendez-vous et vous ne reviendrez pas avec votre mari, en fait, pour qu'on en parle? Et ça, c'est le rôle d'un médecin de famille, comme qu'on l'imaginait à l'époque. Et c'est vrai que ça s'est perdu. Et c'est un constat qu'on voit vraiment aujourd'hui. Hein, le médecin s'est vraiment technicisé et a perdu un petit peu ce rôle qu'il avait avant. donc déjà au niveau de conseil des familles. Et la deuxième chose que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y a vraiment un lien sur le burn-out professionnel et la charge maternelle, parce que bah, nécessairement, quand on mène deux vies à la fois, moi j'ai beaucoup de patientes qui me disent quand elles rentrent le soir, ma deuxième journée commence. Et j'ai pas un enfant, quand elles en ont qu'un, elles me disent j'en ai deux parce que j'ai mon mari avec. Et donc voilà, c'était juste pour signaler que voilà, c'est quelque chose. Je suis nouvelle, je viens de m'installer sur Monaco et ça fait partie des choses que je vais proposer dans l'année qui arrive. Je suis spécialisée en petite enfance et parentalité, suivi postpartum et comme j'ai aussi la compétence de médiateur familial, eh bien j'entends bien aussi proposer en ce sens de pouvoir recevoir les couples. Voilà.
Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand vous avez dit que une façon de faire de gérer de nos temps, c'est de donner ce travail à d'autres femmes qui sont mal payées, précaires. Mais déjà là, est le problème. Pourquoi ces femmes sont mal payées? Parce qu'effectivement, tous ces travaux ne sont même pas considérés comme quelque chose qui vaut quelque chose. Ça vient du même problème. Ça. Donc, une chose, c'est ça. De l'autre côté, ça a quand même permis, malgré le fait que c'est mal payé, c'était quand même payé. Et c'était la première fois que beaucoup de familles se sont rendues compte du coût, de la valeur que ce travail représente. Et je me demande si pour la charge mentale, ça ne serait pas aussi avec une délégation rémunérée qu'on arriverait à la faire valoriser. Donc, vous employez une family manager, vous payez une application, vous voyez, pour visualiser toutes ces choses-là.
Je réagis, du coup. Non, mais merci, c'est très intéressant. En fait, ce à quoi ça fait écho, pour moi, ce que vous dites, c'est que quand le concept de travail domestique a été élaboré, en fait, donc il a été élaboré par beaucoup de féministes biberonnées au marxisme, donc qui se questionnaient sur le travail, les formes de l'exploitation, et en même temps sur le silence de Marx quand il s'agit d'élucider le processus de production de la principale marchandise capitaliste qui est le travailleur. Et en fait, ce qu'elles ont essayé de montrer, c'est que c'était un travail productif. Donc elles ont essayé d'argumenter, c'est notamment le cas de Christine Delphi, que c'était un travail productif, pas au sens où ils produisaient de la marchandise, mais au sens où les services qui étaient, auxquels ils correspondaient, trouvaient leur équivalent sur le marché. Et donc effectivement, elle disait, en fait, pourquoi est-ce que quand je vais au restaurant, je paye tant, alors que quand c'est à la maison, c'est subitement pas du travail, ok. Donc utiliser quoi le ressort d'une certaine manière de la marchandisation réelle ou symbolique pour mettre en évidence la valeur de ce travail, c'est effectivement quelque chose qui a déjà été fait, et c'était aussi tout le sens du mouvement international Wages for Housework, donc des salaires contre le travail ménager, qui a été lancé par Maria Rosa Dalla Costa ou Silvia Federici dans les années 70, en disant, on veut un salaire. En fait, elle ne voulait pas un salaire. Ce qu'elle voulait, c'était mettre en évidence le fait qu'il s'agissait précisément d'un travail sur lequel l'ensemble de la société comptait, en fait. Hein. Mais donc ça, ouais, vous avez tout à fait raison. Après, sur la question de la délégation, je pense qu'on peut effectivement envisager des formes de délégation ou de division du travail de care ou du travail de soins en général. Mais la question, c'est effectivement dans quelles conditions on le fait. Vous avez raison, à mon avis, de souligner que le problème de la non-reconnaissance du travail domestique et de la dévaluation du travail reproductif ou du travail de soins dans l'espace social en général a la même racine. Donc il faut lutter sur les deux fronts en même temps. On peut considérer que ce sont... et d'ailleurs, la plupart des femmes qui font ces métiers-là, quand elles en parlent, elle parle d'un travail de l'amour. Et d'ailleurs, donc les sociologues féministes, quand elles entendent ça, elles sont là, mais quoi? Mais non, c'est pas un travail de l'amour, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais du coup, ça a amené un certain nombre d'entre elles à re-réfléchir. Ok, il y a clairement des formes d'exploitation, il y a des formes de domination, mais il y a aussi cette chose-là qui dit quelque chose d'important de ce type de travail et des raisons pour lesquelles on peut quand même vouloir le faire, malgré le fait que ce soit mal payé, etc. Et donc ça, il faut l'entendre et il faut sans doute s'en servir pour revaloriser effectivement ces métiers-là.
Écoute, merci beaucoup. Mais on aurait, je crois qu'il faudra qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a tellement de questions imbriquées.
Ouais.
Moi, je pense personnellement, mais enfin, je suis un homme, c'est dommage que je le dise moi, que c'est une question centrale, celle-là. C'est-à-dire une question qui peut, non pas homogénéiser, mais donner au féminisme une force plus collective et non pas qui divise comme parfois aujourd'hui. Pourquoi elle est difficile, cette question? Elle est difficile parce qu'il y a la notion de travail. Et que la notion de travail, elle est trop marquée par notre tradition, ce qui fait qu'il y a travail lorsqu'il y a transformation d'une matière par mon effort musculaire ou intellectuel en vue de la production d'un objet doté d'une valeur d'usage et d'une valeur d'échange. On a déjà du mal à voir, par exemple, que fait un sportif. Est-ce qu'un sportif travaille? Vous voyez que déjà la définition classique ne rentre pas très bien. Là, dans le cas de la charge mentale, ça ne rentre pas du tout. Sauf si on dit, voilà, je rentre à 7 heures, je travaille jusqu'à 9 heures, c'est 42 € de l'heure, donc je gagne 84. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Si on utilise service, le mot il est tellement servile que ça nous ramène des siècles en arrière. Donc la question peut s'éclairer par la réflexion que font les sciences humaines sur la notion de travail, les nouvelles modalités de ce qui jadis était appelé travail. Ne serait-ce que, vous voyez, travailler par télétravail, c'est déjà pas un travail au sens classique. Comme disait quelqu'un l'autre jour, c'était une blague, il disait « Oui, moi, dans ma vie, je vais en trottinette à mon télétravail. » Donc, ça veut dire qu'il se déplaçait de sa chambre à ce truc. Donc, là aussi, c'est une vraie question. Et l'autre question qui me semble abyssale, et c'est pour ça qu'il faut qu'on refasse une séance là-dessus, c'est la notion de charge. Parce que dans cette notion de charge, il y a la notion que tu as citée une fois, je t'en remercie, qui est la notion de responsabilité. C'est-à-dire ce qui pèse sur moi et m'induit à accomplir un devoir. Alors la question qui paraît simple, ce serait pourquoi chez certaines femmes, ce type de travail est devenu leur responsabilité? Par exemple pour un enfant, le soigner, prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est une question déjà difficile, parce que ça nous ramène, il faudrait qu'on remonte à des études d'ethnologie, pourquoi la femme s'est arrêtée parce qu'elle est enceinte, elle peut pas travailler, aller à la chasse. L'homme, lui, il va à la chasse, donc il tue, il fait à manger. La dame, elle attend à la maison, etc. Donc elle va s'occuper de l'éducation, qui est un truc qu'il faudra... Mais la question principale, c'est pourquoi ça n'a pas été une responsabilité pour l'homme? C'est ça qui me semble, moi, la question principale. Pourquoi le fait que ma femme pense qu'il faut effectivement que le petit il a son rendez-vous chez le dentiste, et pourquoi moi, j'y pense pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait de moi un irresponsable? Quelqu'un qui ne porte pas le poids, précisément, de sa propre paternité. Donc, vous voyez, je remercie vraiment Marie de tout cœur, parce que c'est formidable. Et j'espère qu'on refera une autre séance. Merci.